Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonjour ou bonsoir, bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. Vous pouvez aussi nous écouter en direct via le site de la radio campusgrenoble.org sur votre smartphone, votre tablette, votre ordinateur, partout, tout le temps. Ou alors vous êtes en train d'écouter ou de réécouter cette émission en podcast ou en balado-diffusion, comme l'on dit également, via le site de la radio campusgrenoble.org avec le podcast de vos émissions préférées. Aujourd'hui, dans l'apérophonie, l'émission des bénévoles du collectif de Radio Campus, j'ai la chance et le privilège de recevoir Monsieur Pierre Bréchon. Bonjour.
Bonjour.
Comment allez-vous ?
Très bien.
Merci d'être venu dans les studios. Vous êtes la cheville ouvrière du forum de l'événement qui a son édition hivernale ce lundi 2 mars de 18h30 à 20h30 au CTM de Meylan.
Oui,
c'est bien ça.
Tout à fait.
Vous êtes professeur émérite de Sciences Po.
Vous êtes
l'ancien directeur de Sciences Politiques.
C'est exact.
Et ça fait, on dit combien de temps que vous animez le forum de l'événement ou vous préférez rester ?
Non.
Une poignée de décennies.
Une poignée de décennies, oui. 36, 37, quelque chose comme ça.
Quand même, ça commence à compter.
Ah oui.
Vous êtes un habitué donc.
Oui.
Alors, on va rappeler le principe du forum de l'événement, ce n'est pas un cours magistral.
Voilà, c'est vraiment un forum. Donc, il faut que la parole circule et que les gens présents soient acteurs et pas seulement auditeurs passifs. Donc,
il y a une interaction.
Il y a une interaction. Il y a trois thèmes chaque fois. Trois thèmes, ça décline le...
La question principale.
Et sur ces trois thèmes, chacun des intervenants parle 5 minutes. Et ensuite, on a 20 minutes d'échange sur cette première question. Puis on passe à la seconde, puis à la troisième. Et on garde avec les mêmes principes. Et on garde le dernier quart d'heure pour choisir ensemble le sujet du forum suivant, puisqu'on en fait 5 dans l'année.
Dans l'année, oui. Donc, c'est-à-dire que le précédent forum, à la fin, vous avez débattu avec les gens présents pour choisir une question qui sera abordée lundi 2 mars 2026. Et donc, la question qui a été retenue, c'est blocage au sein de l'OTAN et construction d'une défense européenne.
Oui, tout à fait.
100% d'actualité.
Voilà. Ben, en général, c'est le forum de l'événement. Mm-hmm. Donc, on essaie de pas prendre des questions tout à fait intemporelles, mais de les d'inscrire. Elles peuvent avoir une dimension intemporelle, mais enfin ou de durée longue, mais on essaie de les inscrire dans l'actualité. Et aussi bien l'OTAN que la défense européenne, ce sont des questions
brûlantes,
à la fois de long terme, mais aussi brûlantes.
Et comme vous nous l'aviez dit lors d'une précédente interview, et c'est rarement des sujets d'actualité nationale qui sont choisis, mais c'est plutôt l'international qui est privilégié,
oui,
par les gens qui viennent.
Exactement. C'était pas au départ notre... on pensait qu'il y aurait souvent des sujets nationaux. Non, je pense que notre public a le sentiment d'être assez bien informé sur les questions nationales, et par contre d'avoir beaucoup moins d'informations solides sur les questions internationales.
Oui, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir une pluralité d'informations sur certains sujets qui se passent loin de chez nous, donc par rapport aux magazines, à la presse écrite, radiophonique et même télévisuelle qui débat souvent de l'actualité française.
Oui.
Donc effectivement, le forum de l'événement dans ces cas-là, c'est une bonne façon d'avoir sous la main des spécialistes et en plus de pouvoir échanger avec eux et leur poser des questions en direct.
Tout à fait.
On rappelle aussi que donc, pour les gens qui viendront, ça se tiendra lundi 2 mars de 18h30 à 20h30 au CTM, le centre théologique de Meylan. Très bel endroit pour ceux qui ne seraient jamais allés, c'est aussi l'occasion de voir.
Oui, c'est au chemin de la Caronnerie, donc c'est facile d'accès.
Les transports en commun sont bien, desservent bien.
Voilà, donc
Et si on ne peut pas venir, il y a une, c'est en visioconférence également.
C'est en visioconférence, donc on peut quand même écouter, éventuellement intervenir, même si c'est plus difficile en visioconférence que quand on est dans la salle.
Vous avez le lien pour participer à la visioconférence sur le site du CTM de Meylan et également avec le podcast de cette émission qui est disponible sur le site de la radio campusgrenoble.org. Vous aurez le lien direct, vous n'aurez qu'à cliquer dessus. Alors donc, moi la première question que j'ai envie de vous poser, c'est que par rapport à, donc, au thème qui a été retenu par les différents participants la dernière fois, c'est-à-dire blocage au sein de l'OTAN et construction d'une défense européenne, comment avez-vous choisi les deux intervenants qui viendront parler ?
Alors les deux intervenants, ce sont, on va dire que ça a été assez facile parce que d'abord, ils sont très compétents sur ces sujets,
c'est le principal.
D'une part, et d'autre part, ils sont dans l'environnement universitaire local. Donc, Sylvie Masson est maître de conférence à Sciences Po Grenoble. Elle est spécialiste de relations internationales. Mmh. Elle a été plusieurs fois détachée dans différentes ambassades. Mmh. Donc, elle a une très bonne
vision
des questions diplomatiques et des relations internationales. Et Cécile Pélodex est une spécialiste de l'OTAN et elle a fait sa thèse sur les pays nordiques et donc sur le Groenland. Elle enseigne au Groenland à certains
pile
moments.
Pile poil.
Donc,
elle est 200 fois sous les feux de l'actualité en ce moment.
Oui, tout à fait. Elle a fait plusieurs articles ces dernières semaines dans la presse. Donc on a des intervenants qui sont souvent de très haut niveau très reconnus dans leur domaine.
Alors donc, le thème principal, lundi 2 mars, ce sera blocage au sein de l'OTAN et construction d'une défense européenne. Et donc, vous avez choisi trois sous-questions pour donner des angles. La première, c'est l'OTAN face au coup de boutoir de Donald Trump. Il faut quand même peut-être rappeler une chose, c'est qu'on le voit maintenant parce que le monsieur parle fort, mais ce n'est pas la première fois que des présidents américains disent aux autres alliés de l'OTAN que ce serait bien qu'ils mettent un peu plus d'argent dans l'affaire et qu'eux, ils ont l'impression, les Américains, de payer pour un peu tout le monde.
Oui, voilà. Il faut rappeler peut-être un peu les origines, que l'OTAN a été créée en 1949, pour faire face au début de la guerre froide et donc pour contrer les forces du pacte de Varsovie à partir de 1955. Et donc c'est une alliance de défense
commune
de l'Occident, on peut dire, face à l'URSS à l'époque.
Et ses affiliés.
Et donc, il y a eu au départ, je ne sais plus combien de membres, mais aujourd'hui, il y a eu quelques ajouts, on va dire quelques pays qui se sont ajoutés. Il y a 32 membres pays de l'OTAN, beaucoup sont en Europe, mais il y a aussi les États-Unis et le Canada. Mmh. Et maintenant, c'est l'Europe élargie.
Jusqu'à la Turquie.
La Turquie est même membre
depuis le début.
Mais par contre, donc il y a la Turquie, un pays asiatique, enfin entre l'Europe et l'Asie. Je crois que le dernier pays qui a adhéré, c'est la Macédoine du Nord. Mm-hmm. Donc on n'est pas loin de la zone
De conflit. De conflit actif, dirons-nous.
Et donc, en effet, les Américains, depuis déjà longtemps, et y compris pendant le premier la première période présidentielle de Donald Trump, les Américains ont dit, voilà, nous, on veut plus payer, pour la défense européenne, il faut que les Européens se prennent en charge. Et les Européens, ils n'ont pas mis beaucoup, c'est allé très doucement, parce que, précisément...
il faut se mettre d'accord en 27.
Il faut se mettre d'accord en 27, et puis par ailleurs... il faut, je dirais, profiter de la situation. Donc, ils étaient, je crois, dans les années 2000, autour de 1,5% du budget
global,
enfin du budget pour la défense. Les États-Unis mettent 5% dans leurs dépenses militaires. Aujourd'hui, l'Union européenne est à 2%.
Donc, avec un objectif d'augmenter jusqu'à 3,5-4 assez rapidement.
Oui, mais on va voir. Donc d'une certaine manière, les problèmes au sein de l'OTAN de financement expliquent que la construction d'une défense européenne ait été très lente. Et il faut dire qu'aujourd'hui, l'OTAN est... par rapport à la défense européenne, l'OTAN est la seule, on va dire, force intégrée avec
venant de plusieurs pays capables de travailler ensemble,
et y compris des États-Unis.
Bien sûr, oui.
Des États-Unis, du Canada, et donc ces troupes, elles sont sous une gouvernance. Unique, et donc elles sont immédiatement opérationnelles en cas de coup de Trafalgar, à condition bien sûr que politiquement les États estiment que c'est nécessaire de répondre par la force. Pour ce qui est de l'Ukraine, on y reviendra peut-être, l'OTAN n'a pas jugé que d'abord l'Ukraine n'est pas membre de l'OTAN, donc
c'est pas faute d'avoir essayé.
Oui, et ils sont toujours à la porte.
Exactement.
Et peut-être que ça se fera, mais la Russie est très opposée à leur entrée.
Évidemment.
Dans l'OTAN. Pour eux, c'est même une ligne rouge. Et donc l'OTAN, après déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022. L'OTAN envoie des armes, mais n'a pas envoyé de troupes.
Elle envoie quelques conseillers techniques, comme on disait dans ma jeunesse.
Voilà.
Cependant, donc, juste pour revenir, déjà du temps du président Clinton, alors évidemment, il ne l'avait pas fait avec la méthode Donald Trump actuelle, mais déjà sous la présidence Clinton, puis ensuite sous Obama, le gouvernement américain avait déjà dit au niveau de l'OTAN qu'il espérait que les dépenses européennes en matière de défense allaient augmenter et qu'une partie de la défense de l'Europe devrait incomber beaucoup plus à l'Europe. Et c'est de plus en plus notable avec la réorientation stratégique de la politique américaine sur la zone Pacifique.
Oui, tout à fait. Et il faut quand même aussi dire que la chute de l'Union soviétique...
Oui, pendant un moment, on s'est dit, tout va bien, on s'en fiche.
Voilà, les gens se sont dit, les États se sont dit, tout va bien.
C'est la fin de l'histoire.
Et donc, il a même été question de savoir si...
On n'allait pas la dissoudre.
Oui, si on n'allait pas la dissoudre. Donc, on a décidé qu'il était important de la... maintenir, mais on n'a pas jugé opportun de mettre le paquet pour accumuler les forces de l'OTAN qui ont plutôt été réduites et qui aujourd'hui, on va dire que évidemment dans le contexte d'une Russie, c'est un lapsus révélateur.
Tout à fait.
D'une Union soviétique plus agressive, d'une Russie plus agressive, et évidemment, les choses changent et l'Europe doit se préparer et veut se préparer pour faire face, en cas de besoin, à des menées subversives à son égard.
Tout à fait. Alors, la deuxième sous-question qui va être abordée, c'est l'Europe de la défense. Où en est-on ? Alors ça, c'est un vaste débat. Donc, effectivement, déjà dans les années 90, on en parlait. Et il s'avère que le problème, c'est qu'on veut faire une Europe de la défense, mais que chaque spécialiste militaire et chaque entrepreneur militaire de chaque pays veut mettre en avant son produit à lui, que les rares collaborations intra, que ce soit l'Eurofighter, par exemple, qui est un avion qui a été conçu par les Français et les Allemands, ou le char qui a été conçu par les Anglais et les Français, après on a du mal à le vendre aux autres, et finalement c'est les Américains qui vendent leur leurre. Donc l'Europe de la défense, c'est compliqué.
Oui, tout à fait.
Économiquement, industriellement, et puis aussi qui va commander, bien oui, entendu.
Oui, tout à fait. Donc l'Europe de la défense avance très lentement. Il n'y a pas de... Pour l'instant... Il n'y a pas, je crois qu'il y a 5000 soldats qui sont, je dirais, véritablement intégrés. Mmh. Il n'y a pas une force, commune importante. Ouais. Donc, voilà, ça fait partie des faiblesses de l'Europe, de l'Union européenne. Et donc, c'est pas tout à fait une seule gouvernance politique, c'est 27 pays qui doivent se mettre d'accord, et donc tout ça est très compliqué. Donc
chaque armée a ses protocoles opérationnels et stratégiques, évidemment n'ont rien à voir avec ceux du voisin. Il faut les mettre en commun, mais on veut éviter les risques d'espionnage, etc. Donc on ne veut pas tout révéler. Enfin bref, oui. Il y a une question de confiance aussi qui est importante.
Voilà. Donc on peut dire que globalement, il y a quand même de la confiance entre pays européens, mais pas absolue. Il y a des canards. Des canards un peu dissidents, on va dire, la Hongrie. Mon ami Orban, oui.
La République tchèque.
Voilà, la République tchèque. Donc, tout ça fait que il est assez difficile de les faire travailler en commun, d'avancer. Et dans le même temps, en plus. L'Union européenne, elle prépare plutôt son élargissement. Mmh. Son élargissement, ça veut dire qu'il faut modifier pas mal de règles de la prise de décision. Mmh. Parce que si on est demain 35, ça sera
encore plus
compliqué. Et donc, il faut avoir de moins en moins de décisions à l'unanimité, mais trouver des règles de majorité qualifiée pour pouvoir, moins contraignantes qu'aujourd'hui, pour pouvoir
avancer,
exactement.
Et puis, si on parle de défense commune, au niveau logistique militaire, vous prenez deux pays avec deux chars côte à côte. Il y en a un qui a des obus de 75 et puis l'autre qui a des obus de 77. Et donc, il faut transporter deux types d'obus qui, évidemment, ralentit et augmente les coûts et la maintenance, etc. etc. Donc, il y a tout un tas de petits détails qui paraissent rien quand on est au bas de la... quand on regarde avec le bout de la lorgnette, mais... Quand on est sur le terrain, c'est un peu la croix et la bannière à gérer.
Ouais.
Parce qu'en fait, désormais, ce qui compte le plus dans un conflit, c'est la logistique, l'acheminement. Et donc, évidemment, plus vous multipliez les choses à emmener sur la ligne de front, plus c'est compliqué et c'est cher.
Voilà.
Donc, j'ai l'impression que depuis que je suis tout petit, on parle de l'Europe de la défense. Mais peut-être qu'en fait, face à l'obstacle, il va être temps de prendre beaucoup d'élan.
Oui,
d'y arriver vraiment.
Oui, et la conjoncture actuelle pousse à ça. Mmh. D'une certaine manière, ce qui nous amène à la troisième question. La guerre en Ukraine... On pourrait dire à partir de 2014, mais surtout à partir de 2014, l'intégration de la Crimée à la Russie. Mais 2022, c'est directement la guerre sur le territoire, je dirais, ukrainien hors Crimée. Ouais. Et cette guerre, elle a nécessité une réaction européenne. Et au total, les Européens ont quand même réussi à prendre des mesures pour aider l'Ukraine assez efficacement. Mmh. L'Union européenne est la deuxième pourvoyeur d'aide après les États-Unis. Mmh. Et donc, il y a des aides de chaque pays, et puis il y a des aides au nom de l'Union européenne, et qui sont très importantes, et qui sont pas allées jusqu'à envoyer des troupes, mm-hmm. mais on en a parlé, on en parle encore.
C'est un énorme flux logistique qui arrive.
Oui, qui est arrivé.
De savoir et de données.
Avec des Ukrainiens qui sont très impressionnants, oui, pour justement utiliser des matériels qui viennent de pays différents et qui il faut que les spécialistes ukrainiens se forment à l'utilisation de différents types de matériel, et donc on les a accueillis dans les pays européens pour les former. Et aujourd'hui, il se débrouille assez bien, puisque, au fond, c'était un peu Goliath contre
David.
Et donc, le David ukrainien, au fond, a montré qu'il pouvait tenir le front et qu'il ne s'était pas effondré et qu'il ne s'effondre toujours pas.
Parce que juste pour prendre l'exemple des pilotes d'avion, les pilotes ukrainiens au départ ont été formés sur des MiG russes. Et évidemment, quand les Russes sont arrivés, ils n'ont plus fourni les pièces de rechange. Parce qu'en fait, ce qui pose un vrai problème sur les avions actuels, ce n'est pas qu'ils se font abattre, puisqu'il y a très peu d'avions qui finissent à terre. Mais c'est évidemment l'usure à chaque sortie. Et donc, dernièrement, ils ont acheté 114 chasseurs suédois de la génération précédente, donc il a fallu tout réapprendre pour les pilotes, oui. D'abord parce que les Suédois, ils écrivent un peu en suédois leur manuel, hein, voilà. Et puis évidemment, c'est pas du tout les mêmes technologies, donc les pilotes ukrainiens ont réappris intégralement à utiliser un appareil totalement différent en très peu de semaines, et l'amener sur la ligne de front, en assurer la maintenance par le personnel technique au sol. Donc là aussi, il faut totalement réapprendre, parce que l'avion ne fonctionne pas du tout de la même façon que les chasseurs russes, etc. etc. Donc c'est plein de choses qu'on ne voit pas de vue d'ici, mais quand on dit on a livré de 120 nouveaux canons, oui, sauf qu'il faut aussi livrer la notice, les experts qui vont former, la chaîne logistique, etc., etc. Donc c'est beaucoup, beaucoup de choses. Dans un environnement hivernal où par exemple, la graisse des canons gèle. Donc, il faut, voilà, c'est des petits détails qui paraissent rien, mais qui, mis bout à bout, fait une chaîne logistique gigantesque dont peu de gens ont, semble-t-il, conscience par ici.
Oui, tout à fait.
Donc, la troisième sous-question, c'est guerre en Ukraine et Groenland, rôle de l'OTAN et de l'Europe. Et alors là, on voit bien les deux pôles qui jouent un peu au billard l'un contre l'autre. Il y a quand même parfois deux forces qui tirent chacune dans son coin.
Oui, oui. Et donc, le Groenland s'est invité donc,
de façon inattendue.
De façon inattendue, grâce à Donald Trump, qui c'est une situation assez étonnante, mmh. puisque... le Groenland, territoire autonome du Danemark, mmh. membre de l'OTAN. Mmh. Donc c'est un membre de l'OTAN très puissant, les États-Unis, qui revendique le territoire ou une partie du territoire d'un autre État de l'OTAN. Mmh. Et donc situation totalement nouvelle, inattendue, et qui a agité beaucoup en ce début d'année Puis finalement,
ça se calme.
Ça s'est un peu calmé. Donald Trump, au moins momentanément,
a trouvé d'autres sujets pour s'énerver.
Voilà, a trouvé d'autres sujets pour s'énerver. Et donc, voilà, on en est là. Mais de toute façon, le nord de notre continent reste une zone à fort risque et qui a besoin d'être défendu militairement. Et donc, l'OTAN, évidemment, joue un rôle très important dans cette défense du nord de l'Europe.
C'est ça, si on veut voir où se trouvent les deux endroits où des bases américaines et des bases russes sont les plus proches, c'est tout en haut. C'est tout en haut du globe.
Hein, oui, tout à fait.
L'écart kilométrique est faible.
Est faible.
Il y a des bases américaines au Groenland depuis très longtemps, donc ça aussi, ça joue dans le sujet.
Ça joue dans le sujet, et ces bases américaines, les bases américaines et les bases de l'OTAN sont en train d'être renforcées, alors que jusque-là... les menaces étaient beaucoup moins fortes et donc on avait plutôt dégarni le nombre de, par exemple, de soldats américains en Europe avait beaucoup baissé et donc
ils ont été redéployés vers d'autres fronts puis ramenés
Voilà, c'est une situation très, très évolutive et il y a quelques, je dirais c'est un peu symbolique, mais ça montre la volonté de l'Europe. Il y a quelques troupes, quelques centaines de personnes qui ont débarqué au Groenland, de militaires qui ont débarqué au Groenland pour montrer une présence et une défense
active
du Groenland.
Sur le terrain.
Et une façon de dire que il faut pas toucher un territoire du Danemark parce que c'est à la fois une attaque contre l'ensemble des pays de l'OTAN et l'ensemble des pays de l'Union européenne.
Tout à fait. Eh bien, ça va faire un beau sujet à traiter. Ça va faire
une belle
réunion. Donc, le forum de l'événement se tiendra lundi 2 mars de 18h30 à 20h30 au CTM, le Centre théologique de Mélan, qui se trouve 15 chemin de la
Caronnerie.
Tout à fait, à Mélan. Vous pouvez y assister également par Zoom. Le lien se trouve sur le site du CTM ou avec le podcast de cette émission sur le site de la radio campusgrenoble.org. Donc c'est vous qui ferez le monsieur loyal, vous passerez le micro. Ah non,
non.
Ah, cette année vous serez au ski.
Non.
C'est une indiscrétion.
Non, exceptionnellement, je ne serai pas présent. Et c'est peut-être que je regarderai en visio, mais c'est Alain Laurent, qui est maître de conférence en économie à l'UGA, qui fera le modérateur des débats.
Oui, puisque donc, pour ceux qui auraient raté le début de l'émission, on rappelle qu'il y aura deux intervenants pour parler de ce blocage au sein de l'OTAN et de la construction d'une défense européenne, à savoir Sylvie Lemasson et Cécile Pélodex, pardon. Qu'elles interviendront chacune 5 minutes sur les 3 questions dont on vient de parler, qu'ensuite il y aura des questions-réponses entre l'audience et les deux intervenantes, et qu'à la fin, il y aura encore un autre sujet de conversation, à savoir déterminer quel sera le sujet de la prochaine... du prochain forum de l'événement. Vous avez déjà la date du suivant?
Oui, parce qu'on prend les dates un an à l'avance. Donc ça sera le 27 avril, le lundi 27 avril, à la même heure, 18h30, 20h30.
Au CTM également.
CTM également.
Et donc ce sera lundi 2 mars qui sera déterminé de quoi on parlera la fois d'après. Et il y a un vote.
Oui, tout à fait.
Une vraie démocratie. Direct.
Ah ben, ça s'impose pour un forum de l'événement qui se veut participatif.
Il faut qu'on vote.
Voilà. Et puis, je suis persuadé que les gens présents vont mieux choisir le sujet que si c'était l'équipe de préparation qui, au fond, peut avoir des points de vue un peu divergents par rapport aux attentes de notre public. Mmh.
Oui, et puis en plus, bon, vous le disiez, ça fait 36 ans que ça existe. Peut-être que vous avez dû avoir des propositions qui vous ont surpris au fil des ans, des sujets que vous n'auriez sans doute pas proposé vous-même.
Oui, tout à fait.
Donc ça renouvelle les questions qui sont abordées.
Oui, oui. Et souvent, il y a une dizaine de propositions dans la salle de sujets. Et on vote. Pour un premier vote, on garde les deux sujets qui sont arrivés en tête. Et ensuite, il y a le vote décisif. Tout ça se fait en un quart d'heure et marche assez bien.
Oui, comme ça permet aux gens aussi d'échanger, d'aborder quelques idées. Et ça doit être effectivement à chaque fois extrêmement fructueux. Merci d'être venu.
C'était un plaisir. Merci à vous de m'avoir reçu.
Et puis on se revoit pour la prochaine édition.
Avec plaisir.
Donc on rappelle le forum de l'événement ce lundi 2 mars de 18h30 à 20h30 au Centre Théologique de Meylan ou en direct par Zoom. Et puis on finit en musique sur Radio Campus en vous recommandant un concert qui aura lieu vendredi 6 mars au Titi Twister au Fontanil-Cornillon en périphérie grenobloise. Du heavy metal avec un groupe belge qui s'appelle Scavenger et les stars locales du hard and heavy grenoblois, les Star Riders, qui sont trop rarement sur scène à mon avis. Donc, si vous en avez l'occasion, ne vous privez pas. On va écouter un titre extrait de leur formidable premier album, les Star Riders plus les Scavengers, vendredi 6 mars au Titi Twister au Fontanil Cornillon. Pour les amoureux des guitares qui font saigner les oreilles, ça devrait être pas mal. C'est ainsi qu'on va terminer cette apérophonie. Merci à toutes et à tous pour votre attention, monsieur Pierre. À très bientôt.
À très bientôt.
Et nous, on finit donc avec les Star Riders.